Mais je vous salue tous, au nom du Seigneur, je suis heureux de vous retrouver. Je vous salue aussi de la part de l'église baptiste où j'étais dimanche dernier, où j'apportais la prédication. Il y a d'ailleurs une sœur parmi nous qui est de cette église qui est parmi nous ce matin. Qu'elle soit la bienvenue. Et aussi, salutations de la part de Mme Roda, la doyenne de notre assemblée, qui est 95 ans, je rappelle pour ceux qui l'ignoreraient. Et qui prie toujours avec ferveur pour nous tous, et en particulier pour les jeunes. Voilà, donc j'ai à cœur de vous partager ce matin un enseignement sur le psaume 63, sur la soif de Dieu. C'est le psaume 63. Si vous voulez ouvrir vos Bibles, pour ceux qui en ont une, on dit que enfin, j'ai lu ça quelque part aussi, que les Français boivent peu d'eau, il faut préciser, pas assez d'eau. Voilà, donc c'est vrai qu'on a besoin, surtout l'été, de veiller à notre hydratation, si on veut garder la forme. Et c'est vrai aussi qu'il y a diverses soifs dans le monde. Divers soifs, soif de succès, soif de plaisir, soif d'alcool, soif d'amour, des bonnes et des mauvaises soifs. Mais avoir soif de Dieu, du Dieu vivant, c'est avoir soif de l'essentiel. C'est Georges Verbert, le fondateur d'Opération Mobilisation, qui avait écrit dans un de ses livres que la soif de Dieu, c'est un signe authentique du vrai disciple de Jésus-Christ. Et nous pouvons aussi nous interroger par rapport à cette pensée. Est-ce que dans mon cœur, il y a cette soif pour Dieu? Soif du Dieu vivant. Deux seuls hommes, d'après ce que j'ai lu dans la Bible, ont écrit avoir soif de Dieu d'une façon, on va dire, directe. C'est donc David, le roi David, et puis un des fils de Corée dans le psaume 42. Et le contexte de la soif de Dieu, eh bien, c'est un contexte d'épreuve. Pour les fils de Corée, ce psaume 42, qui est un psaume qu'on pense très probablement un écrit qui a été fait pendant l'exil. Parce qu'il disait, je pense à la maison de Dieu et je ne peux plus y aller. Donc, c'est un psaume qui est postérieur à David. Et puis, David, eh bien, ce psaume 63, dans lequel on va méditer ce matin, eh bien, lui, il est aussi dans une épreuve terrible, tout aussi terrible, sinon pire. C'est qu'il est. On suppose que ce psaume a été écrit lorsqu'il fuyait devant son fils Absalom. C'était dans le désert de Juda. Et David, il a connu le désert de Juda une première fois. Quand il fuyait Saül, et il a connu le désert de Juda une deuxième fois, fuyant devant l'arrogance, l'orgueil, la folie meurtrière de son fils. On peut imaginer la douleur qui devait être dans le cœur de David. Vous pouvez lire ça dans 2 Samuel, chapitre 15. Donc, cette épreuve du roi David était aussi, il faut le dire, parce que l'Écriture ne le cache pas, était la conséquence de son péché, en particulier contre Uri et Bathsheba, vous connaissez l'histoire, cette triste histoire, était aussi une conséquence d'un manquement important dans l'éducation de ses enfants, puisque David avait de nombreux enfants et il était très laxiste avec ses enfants. Il ne les reprenait pas, il nous est dit. Donc, voilà. Et dans Galates chapitre 6, nous avons cet avertissement très ferme de l'Écriture, de l'apôtre Paul qui dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Alors ne nous trompons pas de semence, semons pour l'esprit. Et je me suis posé cette question, est-ce qu'il faut passer par des épreuves pour avoir soif du Dieu vivant? Je vous laisse cette question, je ne peux pas y répondre. Mais en tout cas, d'après la Bible, Les deux qui ont écrit là-dessus, c'est deux hommes qui ont passé par le creuset de l'épreuve. Donc veillons aussi à l'état de notre âme quand tout semble aller bien, quand tout baigne. Parce que ça peut être très dangereux. Nous risquons de vouloir nous passer du Seigneur. Alors j'aimerais voir avec vous quelques caractéristiques d'une vraie soif de Dieu et les bénédictions qui en découlent. Tout d'abord, c'est au verset 2, enfin on va lire tout le psaume, je crois, ça sera plus simple. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bienveillance est meilleure que la vie, mes lèvres te glorifieront. Ainsi je te bénirai toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de graisse et de moelle, l'acclamation aux lèvres, ma bouche te louera. Lorsque je me souviens de toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours, et je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à détruire ma vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés à l'épée, ils seront la proie des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque prête serment par lui s'en félicitera, car la bouche de ceux qui parlent avec fausseté sera fermée. » Donc on voit dans ce verset 2 que c'est une recherche personnelle. Une recherche personnelle de David. Et j'ai mis en parallèle ce texte d'Ésaïe 45. Nous avions eu une prédication d'Éric Preud'homme là-dessus, si vous vous rappelez, où il nous avait parlé du Dieu qui se cache. Ésaïe 45, tu te caches, Dieu Israël, Sauveur. Un Dieu qui semble se cacher, qui ne répond pas toujours à nos prières, qui peut nous paraître lointain dans certaines circonstances de nos vies. Et puis, en contraste aussi, on se porte dans Paul, dans son discours aux Athéniens, beaucoup plus tard, dans Actes 17, où il dit « Le Dieu qui a fait le monde veut qu'on le cherche pour le trouver, si possible, en tâtonnant. » Donc, si quelqu'un est à la recherche de Dieu parmi nous ce matin, qu'il n'avait pas encore pleinement rencontré, qu'il prenne courage parce que ce Dieu-là aime et veut se laisser trouver, puisqu'il a fait des promesses à ceux qui cherchent. Et je lis dans le prophète Jérémie, au chapitre 29, cette magnifique promesse qui était donnée aux exilés d'Israël. Je vais vous lire cette parole. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, oracle de l'Éternel. Donc Dieu connaît ce qu'il cherche. Et par la bouche de Jésus encore, il nous a dit, cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez. Comment chercher Dieu? Eh bien, en tournant nos cœurs vers lui. Parce qu'il y a un voile qui demeure. Ce voile, la Bible l'appelle le péché, avec toutes nos insuffisances, tous nos manquements. Paul dit dans les Corinthiens, lorsqu'on tourne le regard vers le Seigneur, le voile est ôté. Le voile qui nous sépare de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 3. Et une note de la Bible Colombe nous dit ceci, ce mot « rechercher Dieu » peut dériver du mot « aurore », d'où l'ajout de certains traducteurs comme la Tob, qui traduit « je te désire, je te cherche dès l'aurore, dès le début de la journée ». Psaume 57, verset 9. « Je suis matinal auprès de toi ». Est-ce que nous avons cette bonne habitude aussi? On peut se poser cette question, parce que souvent le matin on est à la bourre, on se lève des fois au dernier moment. Et donc prendre cette bonne habitude le matin, de se poser la question, quelle est la parole de Dieu pour moi aujourd'hui? J'ai soif de connaître la parole, de connaître les pensées de mon Dieu, pour moi. Donc c'est un soupir, comme dit, comme écrit David, « Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée et sans eau. » C'est un désir plus fort que toutes les circonstances adverses et un désir tel que Corée, le fils de Corée dans le psaume 42, aussi qui parle de la soif de Dieu, compare son âme à une biche qui aspire à trouver une rivière au sein du désert. Et c'est une belle image. On peut passer peut-être la diapo suivante, merci. Le désert de Judée. Le désert de Judée, c'est pas un petit désert. Bien sûr, aujourd'hui, on peut le traverser très vite en voiture, mais imaginons à l'époque, à pied, c'est très vaste. Ça se situe entre Jérusalem et la mer Morte, et il y a bien 30 kilomètres. Donc, facilement, d'un côté et peut-être probablement autant de l'autre. Donc, on peut imaginer David qui retourne dans le désert, une fois qu'il l'avait quitté, alors qu'il avait déjà beaucoup souffert. Il est roi, il a eu tout, il a eu plein de succès militaires et tout d'un coup, pourchassé par son fils. Et dans les larmes, il est même parlé qu'il était à pieds nus et qu'il devait fuir. Avec ses autres fugitifs. Alors, dans le désert, il y a plusieurs options possibles. On peut se décourager, on peut se révolter, on peut murmurer que Dieu nous en préserve, ou chercher notre Dieu encore davantage et de lui dire, Seigneur, parle-moi dans ce désert, parce que c'est dans le désert que Dieu parle. C'est dans les circonstances, c'est dans l'adversité que Dieu a des choses à nous dire. Et il est, on le voit dans les traductions en hébreu, comme je vous l'avais peut-être lu tout à l'heure sur l'autre diapo, le premier mot « oh Dieu », si on prend une traduction hébraïque, j'ai pris la Chouraki qui est traduite directement en français, c'est « Elohim ». Qui est Elohim ?« Oh Dieu, Elohim, tu es mon Dieu, tu es mon Eli ». En hébreu. Donc Elohim, c'est le premier mot, Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa, c'est au commencement, Elohim créa. Pourquoi ce nom qui est répété de nombreuses fois dans la Bible? Eh bien, Elohim, c'est le Dieu créateur. C'est un pluriel en plus. Im, en hébreu, comme vous avez le im, c'est le pluriel. Donc, c'est un Dieu unique, un pluriel. Donc c'est un pluriel de majesté, comme l'ont dit des traducteurs. C'est le Dieu fort, c'est le Dieu qui tient tout en main. Ce n'est pas un petit Dieu limité. Et David, il s'accroche à ce Dieu-là. Elohim, ô Dieu, tu es mon Dieu, Élie. Donc c'est une relation forte qu'il a avec ce Dieu-là. Dans l'épreuve, c'est un trésor qui demeure quand tout le reste s'est envolé et c'est une ressource suffisante. Ce Dieu-là, il a les ressources, même si nous, personnellement, on ne voit rien. Et David, quand il fuyait dans le désert, il ne voyait rien. Il ne pouvait que s'accrocher à Elohim, justement, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu fort. Ensuite, on voit au verset 3, c'est avoir soif de Dieu, c'est vouloir le contempler. C'est le contempler. Alors pour David, il dit « Je t'ai contemplé dans le sanctuaire ». C'est la traduction d'Arbi qui traduit ça. « Comme je t'ai contemplé dans le sanctuaire ». Le sanctuaire, pour David, c'était le temple n'était pas encore construit, hein, faut se rappeler. Donc c'était le tabernacle. En attendant que le temple soit construit. Mais ça nous parle qu'il avait contemplé Dieu dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans sa présence, là où les Juifs rencontraient le Seigneur, et il avait pris, on va dire, des réserves. Il avait pris des réserves pour les jours mauvais. Il avait pris des forces. Et nous, ici, ce matin, nous sommes aussi dans la maison de Dieu, dans la Nouvelle Alliance, l'Assemblée de Jésus-Christ, et c'est là aussi que nous pouvons prendre des forces, prendre des réserves pour affronter le désert qui est devant nous. Et J'ai noté aussi cette référence d'Éphésiens 2 où il nous est dit, qui nous décrit ce qu'est maintenant la maison de Dieu pour nous. Éphésiens 2, c'est un temple saint dans le Seigneur, c'est vous aussi, vous êtes en lui édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Eh bien, nous sommes cette habitation de Dieu en esprit. Et contempler Dieu, bien, c'est si on veut connaître Dieu. Jésus a dit à Philippe, « Celui qui m'a vu, a vu le Père. » Et donc, si nous voulons contempler Dieu, portons nos regards sur notre Seigneur Jésus, le Saint, le Juste, le Parfait. Jésus, comme a dit l'apôtre Jean aussi, je cite Jean 1, 14, « La parole a été faite homme et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. » Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Eh bien, David, lui aussi, il avait pris des forces dans la présence de Dieu et il a pu affronter la dureté du désert. Ensuite, au verset 4, nous avons cette parole qui jaillit de lui. « Car ta bienveillance est meilleure que la vie » ou « ta bonté ». Chouraki traduit « ton chérissement ». Et Jean-Marc, ce matin, nous a introduit le culte, en effet, avec ce mot de l'amour de Dieu, cet amour inconditionnel. Donc ce mot de la grâce, il se traduit au moins de 10 manières différentes en français. Donc « ta bonté, ton amour, ta grâce, ton chérissement, ta miséricorde », tout ça, c'est ce même mot. Et David, eh bien, fait un contraste en montrant que la vie, c'est peut-être quelque chose auquel nous tenons le plus, la vie. Mais David, lui, il découvre le seul bien qu'on ne peut pas nous enlever, parce que notre vie, un jour, eh bien, on va la laisser sur la terre. Mais la seule chose qu'on ne peut pas nous enlever, c'est la grâce divine. C'est l'amour divin. C'est le don de la vie et du Saint-Esprit que Dieu nous a fait en Christ. Et ça, c'est la seule chose qu'on gardera. Alors, même si on a santé, richesse, amour, mais si il nous manquait la grâce de Dieu, nous n'avons rien. Nous sommes complètement démunis. Le sujet du bac de philo de cette année, ça fait couler de l'encre, hein, tous ces sujets de bac. Hélas, parce qu'il y a eu des tricheries. Mais bon, le sujet du bac, c'était l'homme, enfin, un des sujets du bac de philo, l'homme est-il condamné à se faire des illusions sur lui-même? J'ai trouvé ce sujet très intéressant. Je me suis dit que ça serait un super sujet pour une soirée d'évangélisation. L'homme est-il condamné à se faire des illusions sur lui-même? Moi, je trouve que c'est une super question. Et il faut vraiment se la poser. Et y répondre. Et moi, je répondrai tout simplement oui. Si on n'écoute pas la parole de Dieu, on est condamné à se faire des illusions sur soi-même. En tout cas, moi, je ne sais pas, peut-être pas vous. Mais bon, alors, il faut écouter la parole de Dieu. Et je reviens, j'aimerais lire avec vous dans Ésaïe 55 un texte aussi qui parle de la soif et de l'illusion. Ésaïe 55, les trois premiers versets. Ô vous tous qui avez soif, venez vers les eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent et sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Pourquoi peinez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et mangez ce qui est bon et vous vous délecterez de mes succulents. Tendez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Je conclurai avec vous une alliance éternelle, celle de la bienveillance fidèle envers David. Je m'arrête ici et vous lirai la suite chez vous. C'est un chapitre extraordinaire de la Bible, un de mes chapitres préférés. Et vraiment, il est magnifique. Et il a aidé à encourager des gens dans leur recherche de Dieu. Donc ce texte d'Ésaïe 55 est très fort parce que il nous montre qu'on s'accroche souvent à des choses, on va dire légitimes, naturelles, mais qui finalement sont quand même secondaires face au Dieu éternel. On peut s'accrocher à notre travail, à la réussite sociale, à notre sécurité, à notre bien-être, enfin à mille et une choses. Mais si on n'écoute pas le Seigneur, eh ben, nous sommes misérables. Donc, nous risquons de vivre dans l'illusion. C'est pourquoi le prophète dit « Venez, achetez ce vin. Achetez-le, c'est gratuit. » Ça paraît paradoxal, mais ça nous parle aussi, ce vin, c'est le symbole de l'Alliance nouvelle. Ça nous parle, nous qui connaissons le Nouveau Testament, la venue de Jésus. Recevez, soyez enrichis de la grâce, du pardon de Dieu. Et David lui-même, qui était un homme faillible comme nous, eh bien, il en savait quelque chose, du pardon, du prix du pardon de Dieu. C'est gratuit pour nous, mais pour lui, ça lui a coûté très cher de nous faire grâce. Je reviens au chapitre 63 du psaume 63 et aux versets 5 et 6. Il est question de la prière. Cultiver, avoir soif de Dieu, c'est cultiver la louange aussi et la prière. On n'a pas toujours envie, quand on se lève le matin, de louer le Seigneur. Mais je crois que c'est une bonne habitude de dire, chaque matin, je vais chanter un cantique en honneur du Seigneur. On a des recueils, on a des chants, on prend les paroles, on peut chanter. Eh bien, cultivons cette bonne habitude de louer Dieu. Zadok Khan a traduit « Ma bouche sera enthousiaste ». Est-ce que notre bouche est enthousiaste pour louer le Seigneur ? Dans Hébreux 13, verset 15, il est dit « Par lui, par Jésus-Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange ». Et là, on voit un juif, dans l'attitude juive de la prière, de lever les mains vers Dieu, qui est comme un signe, on va dire, de foi. C'est le geste habituel de la prière chez les juifs. Signe de foi et aussi d'attente, de dire ben, « Moi, je suis faible, je suis sur la terre, et Seigneur, toi, tu es au ciel, et tu peux tout. Moi, je peux rien, mais toi, tu peux tout. » Donc, le fruit de la prière, frères et sœurs, c'est une âme rassasiée. C'est une paix intérieure, telle que David pouvait dire dans le psaume 17, verset 15, « Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. » Il est rassasié à travers la prière et aussi à travers la parole. Et on va le voir, c'est la diapo suivante. Au verset 5, que faisait David ? Au verset 7, « Lorsque je me souviens de toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » David, il avait de nombreux soucis familiaux. Il avait le gouvernement de son royaume qui devait lui donner pas mal de travail. On peut imaginer, hein, quand vous avez plusieurs millions de sujets. Et pourtant, il savait se concentrer sur la personne de son Dieu. Quel exemple ! Et alors, j'ai posé quelques questions. Méditer sur notre couche. Est-ce que sur notre couche, à quoi réfléchissons-nous ? Alors, on peut réfléchir aux soucis et finalement oublier que Dieu prend soin de nous. On peut se coucher sur la colère, sur la contrariété, oubliant que Dieu est un Dieu qui lui-même ne se lasse pas de nous pardonner. On peut se coucher aussi dans le trouble, avec les yeux remplis d'actes de violence ou de corruption dont nous abreuvent les médias, la télévision, Internet, le petit écran, le grand écran dans les salles de cinéma, et après on se couche avec des scènes qui sont contraires à la sainteté, à l'amour, à la justice de Dieu. Eh bien, bien sûr, David, il n'avait pas cette tentation, hein, mais nous sommes dans un siècle où les tentations et les pièges sont nombreux et nous devons prendre des résolutions si nous voulons aussi méditer sur le Seigneur et nous endormir avec une parole de Dieu dans notre cœur. Ça, c'est quelque chose qui m'aide personnellement. Je ne le fais pas toujours, je ne sais pas toujours. J'apprends comme vous, hein. Je tombe aussi parfois dans des pièges. Je ne suis pas au-dessus. Vous voyez, mais c'est quelque chose dont nous devons nous habituer, de méditer sur notre couche et choisir le meilleur. Et David, il choisissait le meilleur. Et pour ça, vous lisez le psaume 1, hein, le début des psaumes. où David il dit « Heureux l'homme, hein, vous savez pas, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, la parole de l'Éternel, qu'il avait sous la main comme tous les rois, et qui la médite, sa loi, jour et nuit. » Jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Ensuite, au verset 8, c'est réaliser le secours de Dieu. « Car tu es mon secours, et je crie de joie à l'ombre de tes ailes. » David, il fuit, il est dans la détresse, mais il arrive encore à se réjouir. C'est quand même quelque chose d'étonnant, de paradoxal. Ça nous fait penser aussi à l'apôtre Paul, n'est-ce pas, qui au fond de sa prison écrivait continuellement aux chrétiens de Philippe « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». C'est vraiment impressionnant. Donc David réalise la merveilleuse protection dont il est l'objet. Et pour vous qui avez lu l'histoire de David fuyant devant son fils, vous savez qu'il s'en est fallu d'un cheveu il s'en est fallu d'un cheveu qu'il se fasse massacrer pendant cette première nuit où il s'enfuyait devant son fils. Il s'en est fallu d'un cheveu. Mais parce que le Seigneur avait résolu d'anéantir les mauvais conseils d'un traître, eh bien, les choses se sont passées en faveur du roi David. Mais il aurait pu, si Dieu n'était pas intervenu contre ce mauvais conseil, eh bien, David aurait pu être massacré dans l'état de faiblesse et de découragement qu'il était. Là, on voit la puissance de Dieu. On voit... Et David, peut-être au fond de son cœur, il ressentait que Dieu avait... Il lui avait donné une grâce particulière, crier de joie. À l'ombre des ailes, les ailes, ça nous parle de l'aigle qui a porté Israël. Ça nous parle de cette protection merveilleuse dont Dieu étend ses ailes de danger que nous avons été, dont nous avons été témoins dans nos vies, visibles, ou souvent même des dangers dont on n'a même pas conscience. Combien de fois Dieu ne nous a-t-il pas protégés et nous, on n'y a rien vu? Ou ingrats que nous sommes, nous oublions de dire merci à Dieu. On est content sur le moment, puis après, chut, on oublie. Ensuite, au verset 9, « Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. » Ça nous parle de la stabilité. Chouraki a traduit « Mon être, l'âme c'est l'être, mon être colle à toi. » Est-ce que mon être colle à celui du Seigneur? Une autre traduction a traduit la Tob, « Je m'attache à toi de toute mon âme pour te suivre », rajoute traduction Darby et Osterwald, c'est une ancienne traduction, « pour te suivre, je m'attache à toi pour te suivre, autrement je n'aurai pas la force. » Et Paul est aux Corinthiens, a écrit en Corinthiens 6, 17, « Celui qui est uni au Seigneur devient spirituellement un avec lui. » Il y a une unité qui se fait entre le Seigneur et nous quand on s'attache à lui. Et qui nous permet d'être fermes et de réaliser le secours de la droite de Dieu qui a pour nom, quand chaque fois que vous voyez la droite de Dieu, vous pensez à qui? Hein, la droite de Dieu, bien c'est le Seigneur Jésus qui est assis à sa droite. Où Paul dit, qui accusera les élus de Dieu, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour vous. Pour toi, pour moi, en ce moment même. C'est extraordinaire. Et nous pouvons rester fermes parce que Jésus-Christ est vainqueur et parce que lui, fermement, il a dirigé son âme vers la croix pour nous réconcilier avec son Père. Lui a été vraiment notre modèle. Il était l'homme parfait, le serviteur parfait. Jusqu'au bout, il était à la croix. Et il a vaincu. Et il veut faire de nous aussi des vainqueurs dans le désert de ce monde. Daniel, dans sa prophétie, chapitre 11, disait « Le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. » Ceux qui connaissent le Seigneur vont être, dans les temps de la fin, des gens qui résisteront aux troubles. Ils agiront avec fermeté parce qu'ils ont eu soif de Dieu, ils l'ont cherché, ils l'ont trouvé. Et ce soutien pour David, la droite, est tel que David a cette confiance. Il est capable d'écrire et de dire, ceux qui cherchent à détruire ma vie, eh bien finalement c'est eux qui seront mangés par les chacals. Être mangé par les chacals, c'était le déshonneur, c'était la honte de ne pas avoir de sépulture, c'était la fin la plus affreuse, on va dire, pour le contexte juif de l'époque. Donc il sait que Dieu s'occupera de ses ennemis, qu'il les jugera. Et ça aussi, ça peut nous réconforter dans peut-être des situations d'injustice que quelques-uns, peut-être parmi nous, peuvent vivre. Ensuite, au verset 12, et c'est mon dernier point, celui qui a soif de Dieu, eh bien, il va trouver en Dieu la source de sa joie. Il va trouver en Dieu la source de sa joie parce que il a cherché l'essentiel. Il a cherché le Tout-Puissant. Le roi trouvera en Dieu la source de la joie, traduit la Semeur, du désert à la joie. Alors j'aimerais vous encourager, pour vous, aussi aujourd'hui. On peut être dans le désert, puis en même temps dans la joie. Certitude du roi, que malgré qu'il soit momentanément dépossédé de son pouvoir et des choses légitimes qu'il avait, de la part du Seigneur d'ailleurs en plus, hein, si on réfléchit, il était roi de par la volonté de Dieu, eh bien il avait cette certitude que le Seigneur allait s'occuper de ses affaires. Et ça nous parle aussi de Jésus, aussi, qui, en vue de la croix, de la honte, il a regardé aussi, il a regardé vers la joie que Dieu lui proposait. Il était jusqu'au bout. Et c'est le thème de nombreux psaumes, n'est-ce pas, qui attestent que malgré les difficultés, eh bien, on peut rester dans cette joie. Alors, c'est notre alternative. Mourir de soif à côté d'une source d'eau vive ou avoir soif du Dieu vivant et être désaltéré. Comme les Israélites à l'époque, nous sommes toujours devant ce choix. Les contemporains de Jérémie, qui étaient dans une situation d'infidélité envers l'Éternel, eh bien, il leur dit ceci, « Mon peuple a doublement mal agi, ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. » Et parfois, c'est vrai, on se trompe, on creuse des citernes crevassées en plus, au lieu d'aller à la source d'eau vive. Donc cette invitation, cette parole, elle est toujours actuelle. Elle l'était pour les habitants de Jérusalem, elle l'est pour nous aujourd'hui. Ne nous trompons pas de source. Il y a une source pure, c'est celle du Dieu vivant. Et si on a soif de cette source, eh bien notre âme, notre chair, notre corps, tout notre être entier va être irrigué. Et j'aimerais pour terminer laisser cette dernière invitation du Seigneur Jésus qui est toujours actuelle dans Jean 7, 37. Si quelqu'un a soif, a dit Jésus, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui, de Jésus. Il est le Messie qui a accompli les Écritures. Et seul lui pouvait dire une telle parole qu'il accorderait le don du Saint-Esprit à ceux qui croiraient. Et ce don du Saint-Esprit, nous avons besoin non seulement de le recevoir le jour où nous nous tournons vers le Seigneur Jésus, et si quelqu'un ce matin n'avait pas encore fait le pas d'aller vers le Seigneur, d'être réconcilié avec Dieu le Père et d'être sauvé, eh bien, le Seigneur Jésus lui adresse cette invitation. Si tu viens à moi, si tu crois et tu bois, eh bien, tu recevras ces fleuves d'eau vive, tu seras désaltéré. Mais il est aussi pour nous qui sommes déjà au bénéfice de ce don du Saint-Esprit de venir au Seigneur ou de revenir à lui si nous nous en sommes éloignés, parce qu'il est capable de nous renouveler cette source dans mon chemin quotidien, que je sois dans un désert ou dans un oasis, parce qu'il y a aussi des oasis, heureusement, dans le désert, eh bien, il faut revenir et aller à lui. Je vous propose de prier. Notre Dieu, notre Père, merci pour l'exemple de ce roi bien-aimé, David, qui a marché avec toi, qui était un homme selon ton cœur, nous dit ta parole, et malgré tous ses défauts, eh bien Seigneur, tu en as fait un homme selon ton cœur et tu as travaillé sa vie, tu lui as donné aussi ce réflexe salutaire d'avoir soif de toi dans toutes les circonstances qu'il a traversées. Et je te prie pour chacun de nous que tu nous aides à toujours avoir soif de toi. Et pardon aussi pour toutes les fois où on se creuse des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Pardonne-nous, Seigneur, lorsque nous choisissons les choses de ce monde plutôt que toi-même, le Dieu vivant, saint, juste et bienveillant, miséricordieux sur tes créatures, sur tes enfants. Et Seigneur, aide-nous dans la chaleur de cet été aussi, dans ce temps aussi particulier que nous vivons, et bien d'avoir aussi cette attitude de recherche de toi, comme la biche va vers la rivière pour se désaltérer. Merci Père pour les provisions qui sont en toi, pour la source d'eau vive qui est ton Saint-Esprit, qui est toujours à l'œuvre dans nos cœurs, qu'il soit encore renouvelé dans nos cœurs à chacun, pour te rechercher et pour te trouver. Loué sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus, ton Fils. Amen.